Arthur Berned, Belphégor. Première partie, le mystère du Louvre. Chapitre 1er, la salle des dieux barbares. Il y a un fantôme au Louvre! Telle était l'étrange rumeur qui, le matin du 17 mai 1925, circulait dans notre musée national. Partout, dans les vestibules, dans les couloirs, dans les escaliers, on ne voyait que des gens qui s'abordaient, les uns les réveillés, les autres incrédules, et s'empressaient de commenter l'étrange et fantastique nouvelle. Dans la salle dite des David, devant le célèbre tableau « Le Sacre de Napoléon », deux gardiens discutaient avec animation. Bientôt, les balayeuses et les frotteurs, qui ce jour-là n'accomplissaient que fort distraitement leur besogne, s'approchaient d'eux afin d'écouter leur conversation, qui ne pouvait manquer d'être fort intéressante. « Moi, je te dis que c'est un fantôme !» scandait l'un des gardiens. Et tandis que son collègue éclatait de rire et haussait les épaules, il martelait avec un accent de conviction sous lequel perçait un certain émoi. « Mais Gautret l'a vu, et c'est pas un blagueur ni un poltron, même qu'il est en train de faire son rapport, monsieur le conservateur. » C'était exact. Dans le bureau de ce haut fonctionnaire, Pierre Gautret, un grand gaillard solide, robuste, aux épaules carrées, à la figure franche et un peu naïve, déclarait à son supérieur, monsieur Lavergne, qui, assis devant sa table de travail et flanqué de son adjoint et de son secrétaire, l'écoutait d'un air bienveillant mais plutôt sceptique, « Mais je l'ai vu comme je vous vois. Je me laisserais plutôt couper la tête que dire le contraire. Dites-moi, Gautret, vous n'aviez pas bu un petit coup de trop ?» observait monsieur Lavergne. « Oh, monsieur le conservateur, c'est bien que je me le grise jamais !» protestait Pierre Gautret. « Alors, vous avez eu une hallucination ?»« Oh non, monsieur, j'étais bien réveillé, bien maître de moi. Je suis un ancien soldat, et je puis dire sans me vanter que je n'ai jamais eu peur, même lorsqu'à Verdun, les marmites me tombaient sur la tête, dru comme grêle. Eh bien, j'hésite pas à vous avouer que rien que de penser à ce que j'ai vu la nuit dernière, dans la salle des dieux barbares, cela me fait courir un frisson dans le dos et dresser mes cheveux sur ma tête. Et quelle heure était-il quand ce phénomène s'est produit ? Interrogeait le conservateur adjoint. Une heure du matin, monsieur Rabusson, répliquait le gardien. « J'étais en train de faire ma ronde dans les salles du rez-de-chaussée qui donnent sur le bord de l'eau, lorsque tout à coup, en arrivant dans la salle des dieux barbares, j'aperçois une forme humaine qui, enveloppée d'un suaire noir et coiffée d'une sorte de capuchon, me tournait le dos et se tenait debout auprès de la statue de Belphégor. Et tout en dirigeant vers elle la lumière de mon falot, je m'écris « Qui est là ?» Mais le fantôme d'un bond prodigieux se jette hors de la lumière de ma lanterne. À la clarté de la lune qui passait à travers les fenêtres, je le vois se faufiler entre deux rangées de statues et s'engouffrer dans la galerie qui conduit à l'escalier de la victoire de Samothrace. Empoignant mon revolver, je m'élance à sa poursuite. Je le rejoins au moment où, après avoir grimpé les marches, il atteignait le palier. Et braquant sur lui mon arme, je lui ordonne « Halte ou le tire !» Mais à peine avais-je mis le doigt sur la détente que le fantôme faisait un bond de côté et disparaissait comme s'il s'était fondu dans les ténèbres. Affolé, je monte les degrés 4 à 4 tout en déchargeant mon revolver. J'atteins le palier, je cherche avec mon falot où pouvait bien se cacher mon lascar, mais je ne découvre rien. J'examine le sol, je palpe les murs qui portent les marques de mes balles, toujours rien. C'est à croire que le fantôme s'est volatilisé à travers les murs du palais. Voilà, monsieur, la vérité, toute la vérité, je vous le jure. Visiblement impressionné par la manifeste sincérité du gardien, excellent serviteur dont la bonne foi et le courage étaient au-dessus de tout soupçon, Monsieur Lavergne regarda tour à tour ses deux collaborateurs, qui ne semblaient guère moins troublés que lui par le récit qu'il venait d'entendre. Puis, se levant, il fit « Eh bien, nous allons voir, suivez-nous, Gautret !» Ils gagnèrent aussitôt la salle des dieux barbares où un groupe d'employés et d'hommes de service péroraient devant la statue de Belphégor. Dès qu'ils virent apparaître les nouveaux arrivants, tous s'empressèrent de déguerpir, à l'exception du gardien en chef, Jean Sabara, sorte d'Hercule aux proportions athlétiques, qui respirait à la fois la force, le calme et la bravoure. Tout en relevant respectueusement sa casquette, Sabara se dirigea vers son chef. « Monsieur le conservateur, annonça-t-il, on vient de découvrir ici des traces suspectes. » Et il désigna le socle de la statue de Belphégor, dieu des Moabites, dont le masque grimaçant, déconcertant, énigmatique, semblait contempler en ricanant les humains qui l'entouraient. Monsieur Lavergne s'approcha et examina avec attention le piédestal. Il portait des éraflures toutes fraîches, assez profondes, qui semblaient avoir été faites à l'aide d'un ciseau à froid. Troublé par cette découverte, le conservateur en chef reprenait « Voilà qui n'est pas ordinaire. C'est à se demander si un cambrioleur ne s'est pas introduit dans le musée. » Depuis le vol de la Joconde, observait M. Rabusson, de telles précautions ont été prises qu'il est impossible de pénétrer la nuit dans le Louvre. Et le secrétaire ajoutait, et même de s'y cacher avant la fermeture. Grave, pensif, M. Lavergne décidait, moi je vais prévenir la police. Déjà, il se mouillait avec ses collaborateurs, mais Sabarat, saisi d'une idée subite, le rejoignit en disant « Monsieur le conservateur, si nous mêlons la police à cette histoire, le fantôme, enfin si tant est que ce soit un fantôme, se gardera bien de reparaître. » « Oui, très juste. Aussi je vous demande la permission de me cacher ce soir dans cette salle, et je vous garantis que si notre gaillard revient, je me charge de lui régler son compte. » « Qu'en pensez-vous, messieurs ?» demandait M. Lavergne. « Sabarat a raison, » approuvait M. Rabusson. « Avec lui, on peut être tranquille, » affirmait le secrétaire. « Eh bien, c'est entendu, mon cher Sabarat. La nuit prochaine, c'est vous qui serez de garde. » Tous trois quittèrent la salle. Dès qu'ils eurent disparu, Gautret s'approcha de Sabarat et lui demanda « « Brigadier, voulez-vous que cette nuit-là, je reste avec vous ?»« Oh, je remercie, mon vieux, mais c'est pas la peine. Pourtant, il me semble que je pourrais vous être utile. Non, j'aime mieux être seul. » Gautret connaissait l'entêtement de son collègue, un Basque qui, par sa mère, avait du sang breton dans les veines. Il n'insista pas. « Alors, bonne chance, brigadier, » fit-il en lui serrant la main. Et encore, sous l'impression des événements qui lui avaient été mêlés la nuit précédente, il s'en fut rejoindre sa femme, une bonne grosse commère, au visage un peu empâté, mais naturellement réjouie, et qui, anxieuse de savoir, l'attendait dans la grande cour du Louvre. « Quoi de nouveau ? » interrogea-t-elle. L'air sombre, le brave Gautret répliquait. « Rien, Marie-Jeanne, c'est-à-dire que si... » Sabara a demandé à passer la nuit prochaine tout seul dans la salle des dieux barbares. Je voulais veiller avec lui, mais il m'a envoyé promener. Il a bien fait. Pourquoi ? Parce que j'ai l'idée qu'il arrivera malheur à tous ceux qui s'occuperont de cette affaire. Alors donc tu dis des bêtises. On verra bien. Vous savez, moi, mes pressentiments ne me trompent jamais. Madame Gautret avait raison. La comédie de la veille allait se transformer en un des drames les plus mystérieux et les plus effrayants qui eussent jamais bouleversé l'opinion publique. Lorsque, le lendemain de la première heure, Gautret, qui n'avait pas fermé l'œil, pénétra le premier de tous dans la salle des dieux barbares. Quel ne fut pas son effroi en découvrant, près de la statue de Belphégor, renversée de son socle sur les dalles, le corps inanimé de Sabarat. Étouffant un cri d'angoisse et cherchant à surmonter la terreur qui s'était emparée de lui, Gautret se pencha vers le malheureux. Bien qu'il ne portât aucune blessure apparente, le gardien en chef ne donnait plus signe de vie. Son revolver gisait près de lui, à portée de sa main crispée, en un geste de suprême menace. Au comble de l'affolement, Gautret se précipita dans la galerie voisine, appelant d'une voix de tonnerre « Au secours! Au secours !» Deux gardiens, qui eux aussi venaient aux nouvelles, accouraient et s'empressaient autour de Sabarat, qui, les yeux clos, exhala une faible plainte. « Oh vivant, il est vivant !» s'exclama Gautret. Un de ses collègues, qui venait de soulever le blessé, s'écriait en montrant du doigt le derrière de sa tête « Regardez, là !» Sabarat portait à la base du crâne une forte contusion qui avait dû être produite par un violent coup de marteau ou de massue. Gautret, qui avait ramassé le revolver, en ouvrait le barillet. Les six cartouches étaient intactes. Tout en montrant l'arme à ses compagnons, il fit « Bon, il a dû être surpris, il n'a même pas eu le temps de se défendre. » À peine avait-il prononcé ces mots que Sabarat entr'ouvrait les paupières. On eût dit que ses yeux, déjà voilés par la mort, cherchaient à percer les ténèbres qui l'environnaient de leur implacable linceul. Sa main, qui semblait avoir retrouvé un vestige de force, s'accrocha au bras de l'homme qui le soutenait. Ses lèvres s'agitèrent. Un soupir rauque et prolongé gonfla sa poitrine. Et d'une voix à demi éteinte, mais où tremblait encore un écho d'épouvante, il râla « Le fantôme ! Le fantôme !» Un spasme suprême lui tordit les membres. Sa tête ballotta sur ses épaules. Une écume rougeâtre frangea sa bouche entrouverte. Le gardien Sabarat était mort. Chapitre 2. Jacques Bellegarde. Le même soir, vers 17h, à la préfecture, tandis que M. Ferval, directeur de la police judiciaire, avait dans son bureau un important entretien avec M. Lavergne et son adjoint, une vive animation régnait dans la salle réservée aux informateurs judiciaires. Inutile d'ajouter qu'elle était provoquée par la nouvelle du drame qui, la nuit précédente, s'était déroulé au Louvre. Tout en attendant le communiqué officiel, les représentants de la presse parisienne, auxquels s'étaient joints ceux des grands quotidiens de province, se livraient aux commentaires les plus variés et les plus contradictoires. De bruyantes discussions s'engageaient. Les voix prenaient un diapason qu'elles n'étaient guère habituées les murs au papier vert sombre de cette pièce austère et réfrigérante, et à plusieurs reprises, le garçon de bureau de service avait dû prier poliment ces messieurs de parler un peu moins fort, observation dont il n'avait d'ailleurs été tenu aucun compte. Assis un peu à l'écart, un jeune homme d'une trentaine d'années, au visage énergique, au regard intelligent et profond, aux allures sportives et élégantes, semblait ne prêter aucune attention au brouhaha qui l'environnait. Jacques Bellegarde, le brillant rédacteur du Petit Parisien, que ses reportages en France et à l'étranger avaient rendu presque célèbre, appartenait en effet à cette race de journalistes qui parlent peu, agissent beaucoup et pensent davantage. Se méfiant de son imagination qu'il avait très vive, procédant beaucoup plus par analyse que par synthèse, très prudent dans ses déductions et conservant toujours dans l'exercice de ses délicates fonctions un parfait bon sens en même temps qu'une entière maîtrise de lui-même, il avait pour principe de ne jamais s'emballer et d'étudier à fond tous ses sujets. Ayant une prédilection toute particulière pour tous les cas difficiles, le mystère du Louvre, bien qu'il n'en connût encore rien de plus que ses collègues, avait immédiatement éveillé son intérêt. Aussitôt, et nous verrons par la suite combien il avait deviné juste, il s'était dit que cette affaire, qui débutait d'une façon si étrange, était appelée à un grand retentissement, et il s'était mis en tête d'élucider ce troublant mystère en marge de la police. Avant d'entrer en campagne, Bellegarde avait tenu à venir lui aussi au renseignement, et il attendait patiemment les événements lorsqu'un de ses collègues, un gros gaillard à la figure rubiconde, mais au caractère grincheux, que ses camarades avaient surnommé « la mère mente », s'approcha de lui et lui frappant cordialement sur l'épaule, fit « Ah, eh bien, l'as des as, qu'est-ce que tu penses de cette histoire ?»« Bon, il y a encore. Allons donc. Et toi ?»« Bon, ça m'embête, » déclarait le collègue de Bellegarde. « Les crimes, ça me va guère. D'abord, ça me donne des idées noires. Et puis, ça me force à trotter à toute heure du jour et de la nuit, dans des endroits impossibles au risque d'attraper un rhume ou une congestion. Non, moi, j'aime mieux un voyage présidentiel ou une exposition. C'est plus pépère. » Chacun son goût, ponctua Bellegarde avec un fin sourire. Ça te passionne, toi, ces machines-là? Pourquoi pas? Toi? Fit Amermint avec une mine dédaigneuse. Tu finiras dans la peau d'un romancier populaire. » Bellegarde allait répliquer, mais avec une mine dédaigneuse, mais une porte s'ouvrit, livrant passage à M. Lavergne et à M. Rabusson. Tous se précipitèrent vers les deux fonctionnaires, les harcelant de questions. « Monsieur, je vous en prie, » supplia M. Lavergne en cherchant à se dégager. Et, désignant à ses assaillants un homme d'une quarantaine d'années, de taille moyenne, à la moustache taillée à l'américaine, aux yeux perçants et qui, surgissant tout à coup du bureau du directeur de la police, considérait l'assistance d'un regard aigu, sous lequel perçait une sourde hostilité, il ajouta « Voici M. Ménardier, un de nos meilleurs inspecteurs, qui a précisément la mission de rechercher l'assassin de ce pauvre Sabara. Sans doute pourra-t-il vous renseigner mieux que nous. » Aussitôt, les informateurs, abandonnant M. Lavergne, entouraient Ménardier. Déjà, plusieurs d'entre eux, sortant leur carnet de leur poche, s'apprêtaient à prendre des notes. Mais d'un ton incisif, M. Ménardier déclarait, au milieu d'un silence qui s'était établi comme par enchantement, « Messieurs, je n'ai rien à vous dire. » Un murmure de protestation s'éleva, dominé aussitôt par la voix tranchante de l'inspecteur, qui, se retournant vers le conservateur et son adjoint, ajoutait « Et je serai reconnaissant à ces messieurs de bien vouloir adopter la même attitude. » De nouveaux murmures éclatèrent. Mais Jacques Bellegarde, s'avançant vers le limier, lui disait d'un ton de courtois reproche « Vous n'êtes guère aimable pour la presse, monsieur Ménardier. » L'inspecteur répliquait nerveusement « Dans cette affaire, plus qu'en toute autre, une discrétion absolue est nécessaire. Cependant, excusez-moi, messieurs, je fais mon métier. » Avec un sourire plein de finesse, Bellegarde répliqua « Mais moi, je vais tâcher de faire aussi le mien. » Sans insister, Ménardier s'esquiva, entraînant avec lui M. Lavergne et son adjoint. Le reporter du Petit Parisien, laissant ses confrères manifester bruyamment le mécontentement que leur causait l'attitude du policier, gagna aussitôt le dehors. Il se heurta presque à l'inspecteur, qui, arrêté sur le trottoir avec les deux fonctionnaires, le recommandait une dernière fois d'observer la plus prudente réserve. À la vue du journaliste, Ménardier fronça le sourcil. « Rassurez-vous, mon cher, lança Bellegarde, je n'ai nullement l'intention de vous suivre. » Il ajouta avec une légère pointe d'ironie, « Je crois même pouvoir vous affirmer que je vais prendre une route tout à fait différente de la vôtre. » Il s'éloigna après avoir poliment soulevé son chapeau. « Ce lascar-là, grommela le limier avec un accent de mauvaise humeur, j'aimerais mieux le savoir où ça sent diable. » Sans doute, reprenait M. Lavergne, redoutez-vous qu'il n'en raconte trop long et ne donne ainsi l'éveil du coupable. Non, c'est pas cela, fit Ménardier, avec un accent de franchise spontanée. Et il ajouta d'un ton inquiet, ben, j'ai surtout peur qu'il me grille. Après avoir en vain tenté de pénétrer au Louvre, dont une consigne formelle fermait jusqu'à nouvel ordre les portes au public, Jacques Bellegarde s'était décidé à regagner à pied le petit Parisien. Il avait pour principe, lorsqu'il se trouvait en face d'un cas embarrassant, non point de s'isoler dans le calme de son bureau, mais de marcher à travers les artères les plus animées de la capitale. Contrairement à d'autres, le mouvement, le bruit de la rue, loin de le distraire, rendait plus apte son cerveau à saisir au vol et à classer les pensées qui s'y entrecroisaient dans le premier tumulte des discussions qu'il se livrait à lui-même. Après avoir longé la rue de Rivoli et s'être engagé sur le boulevard Sébastopol, il se disait, tout en cheminant, « Je me fais l'effet d'un romancier qui se trouverait en fin d'une page blanche avec un unique point de départ, fort captivant, certes, mais dont il ignorait encore le développement et la fin. » En effet, le problème se pose ainsi. Une nuit, au Louvre, un gardien, en faisant sa ronde, croit apercevoir un fantôme qui s'enfuit à sa vue. Il s'élance à sa poursuite, tire sur lui plusieurs coups de revolver, et le fantôme s'évanouit dans les ténèbres. Ben, c'est déjà pas trop mal, mais c'est pas tout. Le lendemain, un autre gardien, qui s'est offert la fantaisie de passer la nuit tout seul dans la salle où est apparu le fantôme, est trouvé assommé au pied de la statue renversée du dieu Belphégor, dont le socle porte, d'après le peu que j'ai pu savoir, des traces d'éraflures. Quel est ce mystérieux et terrible assassin? Comment et dans quel dessein s'est-il introduit dans le musée? Pourquoi s'est-il attaqué à la statue de ce brave Belphégor qui, sans aucun doute, ne lui avait fait aucun mal? Pour l'emporter, cela me paraît à la fois bien difficile et fort peu vraisemblable. Alors, allumons une cigarette. Bellegarde tirait de sa poche de son veston un étui en argent dont il allait extirper une savoureuse Abdullah, lorsqu'il se vit tout à coup environné par une bande de camelots qui criait la troisième édition d'un journal du soir. La foule s'en arrachait les exemplaires et en attaquait aussitôt la lecture avec un intérêt qui se lisait sur tous les visages. Il était évident que l'affaire du Louvre passionnait le public. Le reporter, lui aussi, s'empressa d'acheter un numéro. Il le parcourut rapidement. Il ne lui apprit rien qu'il ne sut lui-même. Et aussitôt, il reprit sa route, tout en continuant son monologue mental, lorsque, un peu avant d'arriver au grand boulevard, il se heurta à un rassemblement assez nombreux de badauds arrêtés devant la terrasse d'un café, et écoutant les vociférations d'un haut-parleur de TSF qui, placé au-dessus de la porte d'entrée de l'établissement, commentait sur un ton tragique l'assassinat du gardien Sabarat. Tout à coup, une commère qui, un filet de provision à la main et le visage congestionné d'émotion, absorbait le nez en l'air ce récit sensationnel, poussa un hurlement d'effroi et, désignant du doigt le pavillon d'où s'échappait le récit de ce crime épouvantable, elle s'écria « Oh là, le fantôme, je l'ai vu là, dans le truc !» Des rires fusèrent. Jacques Bellegarde, qui s'était approché, partageait l'hilarité générale lorsque son attention fut attirée par une délicieuse jeune fille dont la sobre et gentille élégance, le profil charmant, la blondeur dorée et le visage tout de grâce spirituelle et de malicieuse gaieté en faisaient le type de la vraie Parisienne. Autour d'eux, des colloques s'engageaient. « Moi, clamait un petit trottin, je vous dis que c'est un fantôme. »« Moi, répliquait un vieux monsieur, l'air indigné, je vous dis que c'est un voleur. » »« Un voleur, un fantôme, un voleur. » Ces deux mots se croisaient en un choc de dispute qui commence. Alors, s'adressant à la jeune fille qui, depuis qu'il l'avait remarqué, il n'avait pas quitté des yeux, le reporter fit d'une voix aimable « Et vous, mademoiselle, qu'est-ce que vous en pensez ?»« Oh, vous êtes trop curieux, monsieur Bellegarde, » répondit la jolie inconnue. Le journaliste demeura tout interloqué. En effet, bien qu'il pût se vanter à juste titre d'avoir une infaillible mémoire des physionomies, il ne se souvenait pas du tout d'avoir jamais rencontré cette ravissante personne. Alors, comment le connaissait-elle ? Le désir de savoir l'engagea même à emboîter le pas à son exquise interlocutrice. Bien qu'elle eût pris sur lui de certaines avances, il ne tarda pas à la rejoindre. Et tout en soulevant son chapeau, il allait lui adresser la parole lorsqu'elle se retourna. Son visage, joli, n'exprimait aucune indignation, aucun courroux, mais il révélait une si pudique réserve, et son regard exprimait une invitation au respect si éloquente, que Bellegarde eut l'intuition qu'en lui adressant la parole, il se rendait coupable d'un manque de tact impardonnable. Et après s'être contenté d'accentuer la déférence de son salut, il laissa s'éloigner la jolie Parisienne, tout en suivant des yeux son exquise silhouette, qui se perdit bientôt dans le tohu-bohu des grands boulevards. Un peu pensif et sous le charme presque inconscient de cette première rencontre, aussi brève qu'inattendue, Bellegarde s'engagea dans le boulevard de Strasbourg, obliqua rue d'Enghien et regagna le petit Parisien. D'un pas rapide, il escalada l'escalier à rampe en fer forgé, traversa le hall monumental, prit place dans l'ascenseur, s'arrêta à l'étage de la rédaction et pénétra dans son bureau. Après avoir pris connaissance de son courrier, il s'installa à sa table, réfléchit quelques instants, puis, s'armant de son stylo, il rédigea avec une facilité surprenante et sans la moindre rature, d'une haute écriture large, un peu gothique et aussi lisible que des caractères d'imprimerie, un article qui se terminait ainsi. S'agit-il d'un criminel isolé ou bien est-ce un nouvel exploit de cette bande internationale qui a déjà opéré dans un musée d'Italie ? Nous ne tarderons pas à le préciser. En tout cas, nous pouvons affirmer qu'il n'y a pas une fantôme au Louvre, mais un voleur doublé d'un assassin. Et il allait apposer sa signature au bas de ses lignes lorsqu'on frappa à sa porte. C'était un garçon du bureau qui lui apportait un pneumatique que Bellegarde s'empressa de déchacheler. Comme il le parcourait, il ne put retenir un cri de surprise. Voici en effet ce que contenait le petit bleu. Je vous préviens que si vous continuez de vous occuper de l'affaire du Louvre, je n'hésiterai pas à vous envoyer rejoindre le gardien Sabara. signé Belphégor. Belphégor, fit Jacques surpris. Ah, ça, mais qu'est-ce que cela signifie ? À peine avait-il prononcé ces mots que la sonnerie de son téléphone faisait entendre un appel strident et répété. Bellegarde s'empara du récepteur. Une voix vibrait dans l'appareil. Une voix de femme, impatiente, nerveuse. « C'est toi, mon Jacques, allô ? Allô, c'est moi, Simone !»« Tu vas bien, mon petit ?» répliquait le reporter sans enthousiasme. « Allô, tu m'entends ? Je te rappelle que ce soir, je réunis quelques amis, je compte absolument sur toi. » Visiblement agacé, Bellegarde répliquait. « C'est que je suis très pris, tu sais, cette affaire du Louvre. Quelle affaire ? Ah, oh, tu n'es pas au courant, eh bien, lis demain le petit Parisien. » « Alors, tu viens ? » suppliait presque la voix inquiète. « Oui, si je peux, je te le promets, » répliquait le reporter. « Mais tu le pourras si tu le veux. Bon, de toute façon, je serai chez toi qu'assez tard. Entendu, pourvu que tu sois là. Alors, à tout à l'heure, mon chéri. À tout à l'heure. » Bellegarde raccrocha l'appareil. Ce coup de téléphone l'avait rendu soucieux. Une grande lassitude morale semblait s'être emparée de lui. Il eut un bref mouvement d'épaule, comme s'il voulait d'instinct se débarrasser d'un poids qui lui pèserait trop lourdement. Puis, d'un geste nerveux, il s'empara de l'étrange message qu'il venait de recevoir et se mit à le relire attentivement, répétant tout haut ces derniers mots, « Je n'hésiterai pas à vous envoyer rejoindre le gardien Sabarat Belphégor. » Alors, tandis qu'une flamme d'audace illuminait ses yeux, le jeune journaliste s'écria, « Eh bien, Seigneur Belphégor, j'accepte le défi, et nous verrons bien lequel de nous deux sera le plus fort. » Chapitre 3. Simone Desroches. Le même soir, vers 11 heures, une file d'autos de maître, auxquelles se mélangeaient quelques rares et modestes taxis, stationnait rue Boileau, à Auteuil, près d'un hôtel particulier à l'architecture très moderne. De nouvelles voitures ne cessaient d'arriver, amenant de nombreux invités. Ceux-ci, après être entrés dans la maison et avoir remis leurs manteaux et leurs chapeaux au vestiaire, au lieu de pénétrer dans les salons, d'ailleurs plongés dans l'ombre, longeaient, sous la conduite de valets de chambre en impeccable livrée, la longue galerie qui desservait tout le rez-de-chaussée, traversaient un petit jardin très ombragé et pénétraient dans un vaste atelier dont la décoration n'était pas sans évoquer le souvenir des manifestations les plus outrancières de feu l'exposition des arts décoratifs. À la clarté discrète de l'homme voilé, on distinguait dans cette pièce, encombrée de divans profonds et de sièges aux formes cubiques, une foule qui, dès le premier abord, semblait singulièrement mélangée. Inévitable snob, toujours prêt à s'enthousiasmer de ce qui ennuie les autres, et à déclarer infect ce qui plaît aux uns. Vieille dame aux cheveux coupés à la Ninon et même à la Garçonne, jeune bohème des deux sexes accourus de la rotonde et du dôme de Montparnasse, rimailleur famélique échappé du lapin agile de Montmartre, et même de rares gens du monde authentique qui semblaient déjà regretter de s'être foudroyés par curiosité dans ce milieu vraiment pas trop original. Une vive lueur qui provenait d'un plafonnier invisible éclaira tout à coup, dressée debout sur une estrade aux tentures sombres, une jeune femme d'une remarquable beauté. Drapée dans une sorte de péplum blanc qui laissait apparaître ses épaules de marbre et ses bras magnifiques, on eût dit une fée shakespearienne s'évadant tout à coup de la nuit. C'était la maîtresse de la maison, Mademoiselle Simone Desroches, jeune déesse mondaine, qui s'apprêtait à déclamer sa dernière œuvre devant ses amis. Tout d'abord, elle promena ses grands yeux sur ses invités, tous figés en une attitude dévotieuse. Son regard s'arrêta un moment sur la porte d'entrée, comme si elle n'attendait plus que quelqu'un qu'elle avait hâte de voir pour attaquer les premières strophes de son poème. Mais la porte demeurait obstinément close. Simone ne put réprimer un léger soupir, mais comprenant au frémissement qui courait parmi l'assistance que l'on commençait à trouver un peu trop long ce silence préparatoire, Simone attaqua d'une voix harmonieuse « Les fleurs du mensonge, ode symphonique. » Et sur un ton de mélopée, elle poursuivit, en appuyant chaque mot et en scandant chaque syllabe, « Mon âme est une forteresse dont j'ai fait le jardin de mon cœur. Mon cœur est le jardin terrestre où s'étiolent d'étranges fleurs. » Laissons la poétesse infliger à ses hôtes un long supplice que nos lecteurs nous pardonneraient pas de leur faire partager, et ne nous occupons plus que de la femme, d'ailleurs captivante entre toutes, qu'était Simone Desroches. Unique enfant d'un banquier de Paris très connu, elle avait perdu sa mère de bonne heure. Son père, entièrement absorbé par ses affaires, avait dû confier l'éducation et l'instruction de sa fille à une institutrice d'origine scandinave, Mademoiselle Elsa Bergen, qui, tout en meublant l'esprit de son élève des connaissances les plus étendues et en développant ses réelles aptitudes artistiques, n'avait pas su lui inspirer les principes qui eussent fait d'elle une vraie jeune fille. D'un caractère indépendant et d'un esprit romanesque, à la mort de son père, qui était survenu très peu de temps après sa majorité, Simone avait décidé de vivre sa vie. À la tête d'un héritage que l'on disait considérable, elle avait acheté cet hôtel d'Auteuil, où elle s'était installée avec Elsa Bergen, qui, grâce à l'ascendant qu'elle avait pris sur son ancienne pupille, avait réussi à se faire attacher à elle en qualité de dame de compagnie. Alors Simone, qui se croyait une grande poétesse, avait réuni autour d'elle une cour d'admirateurs, subjugués par sa beauté ou simplement attirés par l'appât de sa fortune. Parmi eux, on remarquait un certain Maurice de Thouars, fils de famille décavée, qui représentait une marque d'automobile toujours à court de capitaux. Très beau, très sportif, véritable don juan de dancing et de bar, et par conséquent très infatué de sa personne, il s'était vite convaincu qu'il n'avait qu'un mot à dire pour que la belle Simone tombât dans ses bras. Et à son vif désappointement, celle-ci lui avait déclaré « Mais je ne veux pas plus d'un mari que d'un amant. J'entends rester moi-même et ne pas m'embarrasser d'entrave qui me coûterait ma liberté. » Mais elle avait compté sans l'amour, qui ne devait pas tarder à s'emparer victorieusement, tyranniquement de son âme. Simone Desroches, 3 mois après, était devenue l'esclave de son cœur. La forteresse s'était laissée prendre, et c'était Jacques Bellegarde qui en était le vainqueur. Ils s'étaient rencontrés en Syrie, où Simone excursionnait et où Bellegarde se trouvait en tournée de reportage. Ils avaient d'abord vécu en camarades. Mais bientôt, l'atmosphère, le décor, quelques aventures pittoresques et même corsées, autour desquelles le jeune journaliste eut l'occasion de donner la mesure de sa vive intelligence, de son adresse et de son courage, avaient eu raison de ses principes de poétesse. Et elle s'était donnée à Jacques avec la même ardeur qu'elle avait mise à se défendre contre les attaques de ses autres soupirants. Mais dès leur retour à Paris, Simone s'était montrée une compagne tellement inquiète, jalouse et tyrannique qu'elle en était arrivée à refroidir et même presque à éteindre le sentiment très vif et très sincère qu'elle avait inspiré au reporter. Celui-ci, soucieux avant tout de conserver intacte sa dignité d'homme et de remplir consciencieusement ses obligations professionnelles, ne supportait plus qu'avec peine l'esclavage dans lequel Simone voulait la servir. Et elle, au contraire, s'était attachée de plus en plus à lui. Elle rêvait même de mariage. Il refusa. Elle était très riche et lui n'avait que son talent pour toute fortune. Alors, ce furent des drames, des scènes, des reproches, des prières qui excédaient Bellegarde. Il songea à la rupture. Seule une crainte l'arrêta, celle que Simone, dans l'exaspération de son désespoir, ne chercha à se tuer, ainsi qu'elle l'en avait plusieurs fois menacé. Et voilà pourquoi, bien qu'il éprouvât, surtout après le mystérieux billet signé Belphégor, le besoin de se recueillir au moment où allait s'engager entre le fantôme du Louvre et lui un duel qu'il pressentait implacable, il avait décidé d'aller faire acte de présence chez Simone, quitte à filer à l'anglaise si la séance se prolongeait trop avant dans la nuit. Lorsqu'il pénétra dans l'atelier, Simone achevait son ode symphonique au milieu des exclamations frénétiques et des cris pâmés de son entourage. Dès qu'elle aperçut Jacques, son visage se colora d'une expression de joie que tous attribuèrent au plaisir et à la fierté que lui causait son triomphe. En réalité, peu lui importaient ses bravos, ses cris d'admiration, ce concert d'éloges. Maintenant qu'il était là, elle ne voyait plus que lui, et c'est vers lui seul qu'elle voulait aller, à lui seul qu'elle voulait être. Mais le flot de ses invités la pressait, l'emprisonnait, l'étouffait. Des esthètes voulaient lui baiser les mains. Le baron Papillon, le riche collectionneur, et la baronne, aussi snob que riche et aussi sot que vain, proféraient, lui d'une voix de basse profonde, et elle d'un ton criard et suraigu de soprano léger, des louanges qui tendaient à prouver qu'ils étaient aussi connaisseurs en poésie qu'en bibelot. Le beau Maurice de Thouars, qui avait réussi à s'approcher de l'artiste, s'empressait à lui adresser ses plus chaleureux compliments, mais Simone, qui avait réussi à échapper à la cohue bourdonnante, le repoussait en disant « Non, je vous en prie, laissez-moi, je n'en puis plus, je suis brisé. » Et rejoignant vite Jacques Bellegarde, elle lui tendit la main tout en disant d'une voix mourante « Ah, vous voilà, vous, enfin !» Puis tout en le regardant longuement d'un air de tendre reproche, elle ajouta tout bas « Mais pourquoi viens-tu si tard ?»« Ben, je n'ai pas pu. »« Tu vas rester. »« Ben, c'est impossible. Cette affaire du Louvre. »« Oh, un prétexte. » « Mais je t'assure que c'est très sérieux. Les laisse-moi te raconter. »« Mais c'est inutile. Pourquoi ?»« Je préfère t'épargner un mensonge. »« Mais tu verras demain dans les journaux. »« Je ne lis jamais les journaux. » Des domestiques apportaient sur des plateaux des rafraîchissements vers lesquels se ruaient les invités qui n'étaient pas tous des gens d'une éducation parfaite. La poétesse et le reporter continuaient à s'entretenir à voix basse. Maurice de Thouars, qui les observait avec une expression de jalousie mauvaise, se dirigea vers une femme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux presque blancs, au visage naturellement sévère, et qui, dès le début de la soirée, affectait de se tenir discrètement à l'écart. C'était Elsa Bergen, la demoiselle de compagnie de Simone. Tout en lui désignant d'un coup d'œil significatif les deux amoureux, M. de Thouars lui murmura, non sans une certaine amertume, « Alors, toujours aussi toqué, ce journaliste ? Ne m'en parlez pas, répliqua Elsa Bergen d'un air pincé. Elle veut l'épouser. Le beau Maurice eut un léger sursaut. La Scandinave reprenait. Mais bon, il refuse. Il prétend qu'elle est trop riche pour lui. Puis elle ajouta, sur un ton de confidence, oh, « Je crois plutôt qu'il en a assez. » Le fait est qu'elles ils ont l'air de se disputer ferme. Ben oui, elle lui fait encore une scène. Elle est terrible. Oui, il finira par se lasser, prédisait Mademoiselle Bergen. Tant mieux, fit Maurice de Thouars, avec un inquiétant sourire. Un virtuose à l'air grave et ennuyé venait de s'installer devant un grand piano à queue de concert. Et projetant, d'un air inspiré, ses 10 doigts sur le clavier, il fit résonner un accord dont la dissonance eut le don d'imposer silence à tous et de figer chacun à sa place. Le baron Papillon, assourdi par ce tapage, s'approcha de Simone et lui demanda « Quel est ce virtuose ?» Profitant que l'attention de Mademoiselle Desroches était distraite par le riche collectionneur, Jacques Bellegarde s'esquiffa rapidement, et lorsque Simone se retourna, elle le vit franchir le seuil de la porte. Un cri faillit lui échapper, mais elle se contint. Deux perles au bord de ses cils révélèrent seulement la grande douleur qui était en elle. Alors, tandis que le pianiste continuait le fracas de son tonnerre inharmonieux, la jeune poétesse s'assit tristement sur un siège et se cacha la figure entre les mains. « Quel artiste !» murmura M. Papillon en désignant Simone à sa femme. « On dirait qu'elle pleure !» fit la baronne. Simone pleurait en effet. Mais ce n'était pas l'émotion artistique qui lui arrachait des larmes. C'était son amour en détresse, son rêve brisé. Jacques Bellegarde avait regagné aussitôt son petit rez-de-chaussée de l'avenue d'Antin, et après une nuit de repos bien méritée, bien gagnée, et même une assez grasse matinée, il s'était levé très en forme et prêt à reprendre son enquête. Comme il passait de son cabinet de toilette dans la chambre, il aperçut, assise dans un fauteuil et lisant le Petit Parisien, sa femme de ménage, qui n'était autre que Marie-Jeanne, l'épouse légitime de Pierre Gautret, le gardien du Louvre. Plongée dans sa lecture, Marie-Jeanne ne l'avait pas vue venir. Pendant un instant, il la regarda d'un air amusé. Puis tout à coup, il frappa dans ses mains. La plantureuse commère eut un cri de surprise et de frayeur. « Le fantôme !» Mais en reconnaissant le journaliste, elle fit la main sur son cœur comme pour en comprimer les battements. « Oh, excusez-moi, monsieur Jacques, j'étais en train de lire votre article. Il est rudement tapé. » Et tout en déposant le journal sur la table, elle allait se retirer, mais Jacques la rappela. « Un mot, madame Gautret. »« À votre service, monsieur Jacques, » fit la brave femme en se rapprochant. Bellegarde réfléchit quelques secondes, puis reprit. « Pouvez-vous me rendre un grand service ?»« Avec plaisir, monsieur Jacques. Vous êtes si gentil pour moi. C'est grâce à vous si je vais parfois au théâtre presque à l'œil. » et à la Chambre des députés, sans rien payer du tout. Aussi, croyez que si c'est en mon pouvoir... » D'un geste amical, le reporter arrêta le flot de paroles qui menaçait de le submerger. Puis, l'air grave et pesant bien chaque mot, il fit... « Il faut que votre mari m'aide à me cacher ce soir dans la salle des dieux barbares. Diable! S'écria Marie-Jeanne, oh, ça va pas être commode. Jacques insistait, mais si, voyons, je veux bien essayer, seulement. Une sonnerie électrique vibrait dans l'antichambre. Allez voir, ordonna le journaliste. En tout cas, je n'y suis pour personne. La femme de ménage s'en fut, pour revenir presque aussitôt, annonçant d'un air d'hostilité. Ben, c'est encore elle. Jacques eut un geste d'agacement. Ben, voilà un crampon, souligna Marie-Jeanne. Et comme Bellegarde, nerveusement, écrasait dans un cendrier la cigarette allumée qu'il tenait à la main, elle demanda « Faut-il lui dire que vous n'êtes pas là ?»« Non, répliquait Jacques, elle serait capable de m'attendre dans la rue. Allez, faites-la entrer dans mon bureau. » Lorsque Marie-Jeanne eut disparu, le reporter grommela entre ses dents. Oh, cette femme me rend la vie intenable. Cela ne peut pas durer. Et après avoir arpenté deux ou trois fois sa chambre, cherchant le moyen de rompre avec Simone sans trop de tracas, il ouvrit la porte qui donnait dans son cabinet de travail. Mademoiselle Desroches, qui semblait émue, angoissée, s'en fut vers lui. Et tirant brusquement un billet de son sac, elle le tendit au journaliste en disant d'une voix tremblante « Voilà ce que je viens de recevoir. » Jacques prit le message et lut. « Mademoiselle, je sais combien vous vous intéressez à M. Jacques Bellemare, garde. Aussi, je vous conseille vivement d'user de toute l'influence que vous avez sur lui pour l'empêcher de s'occuper plus longtemps de l'affaire du Louvre. Sinon, il est condamné. Belphégor. Pas possible, fit le reporter en affectant de sourire. Mais je t'en supplie, s'écria Simon, mais renonce à cette enquête. Oh, tu es folle, ripostait Jacques. Tu ne m'aimes plus, haletait la jeune femme. Et elle se laissa tomber sur le siège, les épaules secouées par de douloureux sanglots. Bellegarde, gênée, se rapprocha d'elle. Puis, avec plus de douceur, il lui dit « Voyons, le soir raisonnable. » Être raisonnable, n'est-ce pas demander l'impossible à une amoureuse ? N'est-ce pas surexcité, exaspéré le déchaînement de ses inquiétudes ? Relevant la tête, Simone protestait. « Mais c'est précisément parce que je suis raisonnable que je te supplie de m'écouter. » Et d'une voix fébrile, elle accentua. « Jacques, j'en ai le pressentiment, tu cours un grand danger. »«
Moi ? » ?»«
Oui, toi. » »«
Mais non. »
Ce matin, contrairement à mes habitudes, j'ai lu les journaux qui rendaient compte de l'assassinat du Louvre. Eh bien, et à peine les avais-je terminés que je recevais ce billet.
Moi, bon, j'ai reçu le même hier soir.
Et tu n'y attaches pas plus d'importance.
Malice cousu de fil blanc.
Comment cela ?
Mais hier, j'ai très bien compris que je gênais l'inspecteur Ménardier, qui est chargé de cette affaire. Et maintenant, moi j'en suis sûr, c'est lui qui aura employé ce subterfuge pour se débarrasser de moi.
Un policier tel que lui, objectait Simone, n'emploierait pas des procédés aussi enfantins. Non, pour moi, cette missive est réelle. Jacques, je t'en supplie, renonce à une entreprise où j'en ai la conviction, tu t'exposes au plus grave danger.
Oh, je t'en prie, scandait le journaliste excédé.
Bouleversée, la jeune femme s'écriait,
Si t'arrive malheur, je ne te survivrai pas. »
Ma pauvre Simone, reprenait Jacques Bellegarde, mais tu es une grande romanesque.
Elle n'eut qu'un cri. Mais je t'adore.
Jacques, presque malgré lui, détourna la tête. Lentement, il dégagea ses mains que sa maîtresse tenait emprisonnées dans les siennes. Puis il s'enfuit vers son bureau, ouvrit un tiroir et y renferma le message que Mademoiselle Desroches venait de lui remettre. Celle-ci, qui ne l'avait pas quitté des yeux, murmurait, accablée,
oh, « Je sens bien que tout est fini. »
D'un mouvement brusque, comme si elle rassemblait le restant de ses forces prêtes à l'abandonner, elle se leva. Bellegarde eut un geste, mais un geste vague, pour la retenir.
« Adieu, »
fit-elle en chancelant. Dans ce mot, il y avait tant de détresse que Jacques eut l'impression qu'un glas tintait à son oreille. Angoissé, il lui barra la route. Elle s'effondra dans ses bras. En sentant son étreinte l'enserrer avec désespoir, son cœur battre contre le sien si précipitamment qu'on eût dit qu'il allait se briser, Jacques, envahi par une de ces pitiés, d'autant plus fortes qu'elles sont la dernière flambée d'un amour qui s'éteint, ne put que murmurer « Allez, calme-toi, nous allons déjeuner ensemble. »«
C'est vrai ?»
s'exclama Simone avec un sursaut de joie presque enfantine.
« Oui. » Où cela ?
Aux Glycines. Une expression de joie subite illumina le visage douloureux de la jeune femme. Jacques déposa un baiser rapide sur son front fiévreux. Puis il sonna Marie-Jeanne.
« Ma canne, mon chapeau !» dit-il.
Simone sortit de son sac une petite boîte à poudre. Et se campant devant une glace, elle s'efforça de faire disparaître les traces de son chagrin qui rougissait ses beaux yeux si tendres. La femme de ménage revenait avec les objets demandés. Le reporter lui glissa à l'oreille.
« Surtout, n'oubliez pas de demander à votre mari. »
Marie-Jeanne eut un geste d'acquiescement, puis Jacques et Simone gagnèrent le dehors. Alors, tout en les regardant s'éloigner, Madame Gautret grommela «
Faut-il qu'il en ait du courage, Monsieur Jacques, pour passer la journée avec cette raseuse et la nuit dans la salle des dieux barbares ?»